what you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Forever.
Man, the meatloaf!
It's not a tumor.
Price is wrong, bitch.
Hey, the Schwartz, baby!
This is... C'est her.
Vous n'avez pas changé, Antoine, hein?
Vous non plus, vous n'avez pas changé, Colette. Je comprends maintenant la force qui m'a poussé à sauter dans ce train en marche pour venir vous retrouver. Laissez-moi vous embrasser.
Non, je ne vous laisserai pas m'embrasser. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il faut être deux pour ça. C'est marrant, hein? On a vraiment l'impression que notre histoire d'autrefois ne vous a rien appris. Mais alors rien du tout. Antoine, je vous aimais bien. Je ne vous aimais pas. Je vous aimais bien. Vous passiez votre temps à essayer de forcer mes sentiments, ou alors à me circonscrire en faisant la conquête de mes parents. Sans compter cette façon incroyable que vous aviez de vous précipiter sur moi, comme la misère sur le monde à chaque fois que la lumière s'éteignait dans un cinéma.
Mais évidemment, Doinel lui convient comme un gant, parce que c'est écrit en pensant à lui, et il arrive même que les scènes soient inventées, simplement parce que je sais qu'il va être dedans très amusant, ou du moins, je m'amuse déjà sur la feuille de papier en y pensant.
Eh bien, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à ATC, l'émission qu'on aime regarder dans sa petite radio.
Eh oui, avec... parce que maintenant ATC, je t'ai coupé d'entrée, ça m'énerve. Donc vous pouvez vous joindre ATC au 09 52 368 531, à toute heure de la nuit.
Oui, et surtout
la nuit.
Et surtout la nuit et très tôt le matin.
Puisque Gwen est veilleur de nuit.
Voilà, c'est ça, je suis Dame Pipi.
Alors aujourd'hui, nous allons faire la recette de la truffe au François.
Ouais, c'est ça, oui. Enfin, François, pas le pape, hein, le réalisateur, le réalitorisme. Oui. Donc voilà, oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de ce cher François, de ce cher Monsieur Truffaut. Donc voilà, donc en direct live du ITC, notre cher Henri Toscan du Plantier, Bounty,
oui,
va nous parler de François.
Bienvenue sur mon canapé.
Donc...
C'est à vous.
Ah, pardon. Donc, François Truffaut, il est français.
Non.
Il est né à 6 février 1932.
Ah oui.
À Paris.
À Paris, oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui.
Et il se dead le 21 octobre 1984. Très
à
bon
Neuilly.
Livre, hein.
Ah oui, oui, oui. À Neuilly-sur-Seine.
À l'âge de 52 ans.
Voilà, c'est ça.
Petit... Il est né d'un père qu'il n'a pas connu et d'une mère distante. Ça me rappelle quelqu'un.
Mais c'est souvent ça chez les réalisateurs ou certains comédiens. Ils ont toujours des problèmes familiaux. Alors, est-ce qu'il y a une incidence? Voilà.
C'est superbe. François Truffaut, donc, il vit une enfance difficile.
Quoi. Oui, tout à fait.
Comme
super
toi.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce que Gwen a connu Mandela.
Oui. Oui. Et Nelson, c'est mon fort.
Oh, il est bien. Alors, l'école ne le passionnant pas.
Non.
C'est très bien, ça aussi. Il préfère passer son temps devant la télé. Ah non, ça n'existait pas. Dans les salles obscures. Tu es sérieux, hein? On parle de quelqu'un de sérieux. Tu arrêtes maintenant.
Oui, tout à fait, ok.
Tu vas paniquer mon sujet.
Non. Paniquer?
Okay. Non. Ou le nez dans les bouquins. C'est bien ça, hein? J'aime ces phrases très ponctuelles. On fait de l'arté, nous aussi.
Arté, c'est la nuit.
Alors, adepte de l'école buissonnière. Ah oui, d'où le film Les 400 coups.
Hein. Oui. Hein.
T'as vu tout de suite, j'ai lancé le film. Le jeune homme sombre dans la délinquance et peine à trouver sa vocation. À 20 ans, il s'engage dans l'armée, mais regrette vite son choix.
Oui, c'était par amour. Hein. Il a eu une déception, il voulait se faire tuer en Indochine.
C'est vrai ?
Mmh.
Encore un bon film. Indochine, mine libre. Alors, incarcéré pour désertion, il est marqué par sa rencontre avec André Bazin. Qui est André Bazin ?
André ?
Oui. Pourquoi ? Toi, t'as quel nom ?
C'est pas Hervé, plutôt ?
Non, non, c'est André. Hervé, mais il en raconte, lui. Alors, un critique de cinéma, bien sûr, hein, Gwen, bien sûr, n'a travaillé qu'à moitié, comme d'habitude, qui voit en lui un fort potentiel. Ce dernier, donc, décide alors de le prendre sous son aile et permet à son poulain, Japlou, intégrer la rédaction des cahiers du cinéma. Alors là, tout de suite, je rebondis. Qu'est-ce que les cahiers du cinéma ? Merci, Gwen. Alors, son histoire est en partie liée avec celle du 7e art, notamment en raison d'une génération de cinéphiles enthousiastes et provocateurs qui donnèrent naissance à la nouvelle vague. Qu'est-ce qu'une nouvelle vague ? C'est une vague qui est nouvelle.
Bien.
Merci. On en parlera un peu plus tard. Oui. En instaurant préalablement donc la politique des...
Des quotas ?
Non, des auteurs. Ah, bien. C'est les jeunes cinéphiles, donc Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol et bien d'autres, y écrivent leurs premières critiques avant de devenir cinéastes pour certains d'entre eux. La revue donc, des cahiers du cinéma, ou très très bien connue avec...
leur fameuse couverture jaune.
Très bien, tu as vu mon geste circulaire. Hein. Mmh. Est créée donc, en 1951 par Joseph-Marie...
Curie ?
Non, Lo Lucas et Jacques Doriol-Valcroze, avec un soutien économique de Léonid Kaigel. André Bazin donc rejoint l'équipe dès le deuxième...
trimestre.
Non, numéro. Tu es nul hein, en contrôle mental.
Oui, je ne suis pas le professeur X, moi.
D'accord. Dès sa création, donc, le magazine affiche une volonté de critique aiguë pour un cinéma français recherché et non médiocre qui n'abrutit pas le public. Contrairement au film que tu regardes.
Mais je te merde !
Il semblait. Le contenu donc, consiste en entretien, document, avec une grande place pour la technique cinématographique. Malgré tout, la ligne éditoriale n'est pas réellement fixée à ce moment-là. C'est en 1952 que les cahiers prennent un tournant décisif. Donc au 21e numéro, François Truffaut, hein, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, commence à apporter sa contribution aux articles. Son premier article donc, affirme un détachement du cinéma français dit de qualité au profit d'un cinéma d'auteur. Le cinéma américain notamment, avec Howard Hawks, Alfred Hitchcock notamment. Hein,
mmh, oui.
Puisque Alfred Hitchcock a bien compté dans la vie de...
De François Truffaut, oui, le fameux bouquin.
Voilà. Un article donc, de Truffaut, notamment, achèvera d'affirmer la nouvelle ligne des cahiers en janvier 1954. Il s'agit d'une certaine tendance du cinéma français... article dans lequel il critique fortement le conformisme du cinéma français. Donc là, tout de suite, vu que j'en ai parlé tout à l'heure, autant la dire maintenant. Qu'est-ce la nouvelle vague ?
Oui, qu'est-ce que... Hein ?
C'est
quoi ?
Ce n'est pas la ligne de maillot de bain de Tiena Doronet, ça, il faut le dire. Donc, c'est un mouvement du cinéma français dès la fin des années 50. Mmh. Le terme apparaît donc sous la plume de François Giroux dans l'Express du 3 octobre 1957 dans une enquête sociologique sur les phénomènes de...
Société.
Non, de génération. Mmh. Il est repris par Pierre Billard, hein, oui. Célèbre joueur de queue. En février 1958, dans la revue Cinéma 58. Cette expression est attribuée aux nouveaux films distribués en 1959 et principalement ceux présentés au festival de Cannes de cette même année. Donc une campagne publicitaire du CNC, hein, qui était le Centre National de la Cinématographie, va définitivement effacer le sens sociologique du terme pour l'appliquer plus strictement au...
Cinéma.
Il est fort. La Cinémathèque, puis la célèbre revue à couverture jaune, qui s'appelle...
Les Cahiers du Cinéma.
Voilà. Servent d'école aux critiques qui vont bientôt s'emparer de la caméra. La nouvelle vague donc, ne se définit pas seulement par ses techniques cinématographiques, hein, comme pourrait penser M. Claude Lelouch, révolutionnaire pour l'époque, mais aussi pour ceux qui la composent, tels François Truffaut, Éric Rohmer, donc Agnès Varda, Jean... Eustache, Jacques Rivette, Claude Chabrol et Jean-Luc Godard, qui constituent donc le cœur du mouvement. Il n'est pas le fruit d'une longue recherche sur le cinéma, mais le produit immédiat d'une époque et le fruit de la rencontre de plusieurs jeunes cinéastes. Il s'inscrit dans le contexte historique de l'époque et traduit les mouvements de la société. Début donc des Trente Glorieuses, des révoltes étudiantes, guerre d'Algérie, mouvement de libération des femmes, le cinéma se fait miroir de l'époque. Donc la nouvelle vague ne se limite pas à un nouveau genre cinématographique, mais se fait par le vent de liberté qu'elle apporte et tout ce qu'elle sait représenter l'instantané d'une époque.
Tout à fait.
Il me semblait que tu allais approuver. Donc reprenons un peu notre ami François Truffaut après ces deux digressions. mais il était nécessaire de les faire.
Mais tout à fait.
Donc, protagoniste d'un mouvement donc, d'idées novatrices, le critique brûle de passer à la pratique. Donc, formé par la réalisation de deux courts-métrages, hein, Une visite en 1954 et
Les Mistons.
1957, tu voulais dire un mot?
Non, Les Mistons, en fait, c'est l'histoire de petits enfants. Voilà, qui en fait s'amusent à ridiculiser, enfin, à embêter un couple d'amoureux. Voilà.
C'est magnifique. Donc, il écrit et réalise
Les 400 coups.
Oui, il est bien celui-là, je l'ai vu.
Oui, tout à fait. Oui.
Son premier long métrage, donc en 1959, il a 27 ans.
Alors, Les 400 coups.
Quel SS ?
Alors, Les 400 coups, qui sera, je pense, un peu l'œuvre fondatrice de notre cher Mr. T, Antoine Doinel, 12 ans et demi, vit dans un appartement exigu du côté de la place Clichy. Tu connais la place Clichy?
Oui, c'est, voilà. C'est la pastille.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et son régime aussi. Ses parents ne s'occupent guère de lui. Madame Doinel est trop prise par ses aventures galantes, n'est-ce pas? Et Monsieur Doinel, son père adoptif, tiens, par son club automobile. Une punition non faite, un incite à l'école buissonnière avec son copain René. René, au cours de son escapade, il surprend sa mère dans les bras d'un inconnu. De retour à l'école, il doit inventer une excuse monumentale. Sa mère est dead. Voilà.
Elle est morte.
Voilà, elle est morue. Voilà, c'est ça. L'arrivée
on
de
fait
cette
mission sur le cinéma français. Ouais, parle français, s'il te plaît. Merci.
Ça va, merci. Donc l'arrivée, évidemment, de cette dernière fait vite éclater l'imposture. Le soir, il n'ose pas rentrer chez ses parents et leur écrit une lettre pour les prévenir de sa fugue. Le lendemain, sa mère vient le récupérer avec une gentillesse déconcertante, pleine de bonnes résolutions. Mais déçu par une mauvaise note en composition française, Antoine fugue de nouveau, s'initie maladroitement au vol et aboutit dans un centre pour délinquants d'où il s'enfuit pour la mer. Avec le beau Serge et les cousins de Chabrol et à bout de souffle de notre cher monsieur Godard.
Avec Jean-Paul Belmondo.
Voilà, c'est ça. C'est le film qui marque l'explosion de la nouvelle vague. Il surprend moins par l'innovation formelle ou provocation que par la justesse du ton, la sensibilité, la vérité des personnages et surtout, le jeune Jean-Pierre Léo. La fluidité et le rythme du récit, la dynamique et le lyrisme des mouvements de la caméra, en particulier dans la fameuse séquence finale. C'est un film bien moins autobiographique qu'on ne l'a cru, mais il en émane une grande force et une vive émotion, car chaque plan apporte au spectateur la certitude qu'un auteur s'y exprime à la première personne. Truffaut s'y révèle déjà comme un cinéaste classique, un créateur de personnages réussissant à faire surgir la poésie d'un style et d'un univers. Jean-Luc Godard est un enthousiaste, un peu provocateur. Sa jubilation à polémique contre un cinéma français en léthargie, sa manière d'écrire à la fois claire et passionnée, tout cela fait de lui un des critiques les plus tonifiants et les plus justes des années 50. Donc voilà.
Tu as dit Jean-Luc Godard?
Non.
Si, au début.
Ok, bah j'ai dit, excusez-moi.
Ah, c'est François Truffaut.
C'est François Truffaut, oui, excusez-moi. Donc voilà, et effectivement, suite à un court-métrage pour le moins original, Les Mistons, en 1958, son premier long-métrage fera l'effet d'une bombe. Truffaut avait conspué le cinéma en place, voilà qu'il a l'audace de briguer les lauriers cannois avec Les 400 coups. Son côté hautois, là, que je m'y mette, lui sera toujours reproché. D'autant plus qu'avec la surprise des 400 coups et le ton résolument novateur de Tirer sur le pianiste, le cinéaste se coule dans le moule du cinéma traditionnel qu'il avait tant conspué. Mais ça, j'expliquerai plus tard.
Oui, non, mais puisqu'on y est, là, autant nous balancer ton Antoine Doinel, hein, puisqu'il y a eu 4 épisodes,
oui,
me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, notre cher Antoine Doinel. Alors, parce qu'effectivement, Antoine Doinel, c'est le personnage fictif qui traînera tout au long de la carrière de notre cher Mr. T. Donc, il y a plusieurs films. Donc, L'Enfance avec Les 400 coups en 59. La rencontre amoureuse dans Antoine et Colette en 1962. Alors ça, par contre, c'est un petit court-métrage hein, qui fait partie de l'ensemble d'un film dont le thème sera L'amour à 20 ans.
D'accord.
Il y a l'amour entre Antoine et Christine, qui est joué par Claude Jade, dans Baiser volé en 68. Le mariage d'Antoine et de Christine, dans Domicile conjugal en 1970. Et l'escapade d'Antoine et le divorce, dans L'amour en fuite en 79. Donc c'est une histoire non linéaire, parce que dans Baiser volé commence comme si le spectateur connaissait déjà Catherine et sa famille, sans jamais rien savoir sur leur rencontre avec Antoine. Dans ce film-là, Antoine ferme les portes et Catherine part par contre, les ouf, tu vois, il y a vraiment le personnage, parce que Truffaut filmait comme si la caméra, c'était la porte, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de ça, puisqu'il faut savoir qu'il n'avait pas fait d'école de cinéma, hein, François Truffaut, il a pris sur le tas, comme on dit. Mmh. Et c'est un peu aussi ça.
C'est marrant, parce qu'on le retrouve aussi dans les westerns d'Edward.
Oui, oui. Mais parce que lui, il, en fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'école, mais il a appris en regardant d'autres films. Oui. Donc voilà. Donc, Catherine représente les trois âges de la femme. Elle est convoitée et vouvoyée dans Baiser volé, mariée et trompée dans Domicile conjugal, divorcée mais aimée dans L'amour en fuite. Dans le premier, elle est sage et naïve, dans le second, elle est douce et amère, et dans le dernier, elle est indépendante et déterminée, comme les oui. femmes à l'époque. Antoine et Catherine forment le premier couple du cinéma à divorcer par consentement mutuel.
Une révolution.
Voilà, tout à fait. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Léo, quand il a commencé, il avait 14 ans pour les 400 coups, hein, et qu'il y avait eu une grande recherche pour trouver évidemment ce personnage. Il est l'enfant terrible de la nouvelle vague. Et d'ailleurs, il tournera beaucoup avec notre cher Jean-Luc Godard. Voilà, Mr. G. Donc voilà, et Claude Jade se représentera quelque part la sensualité à la française. Effectivement, Mr. T est vraiment inspiré par tous les auteurs qu'il a aimés, puisqu'il est vraiment dans ce cadre des anciens comme Hitchcock, comme Jean Renoir. Et d'ailleurs, il dit que c'est justement Jean Renoir qui m'a appris que l'acteur jouant un personnage est plus important que ce personnage. Antoine Danel est devenu la synthèse des deux personnages réels, Jean-Pierre, Léo et moi. Donc tu vois, c'est-à-dire que c'est en fait, Truffaut s'est créé un personnage de cinéma pour exprimer ce qu'il a vécu. Son
pour père expier plutôt voilà. son.
Voilà, bah, c'est-à-dire aliénations. Son père adoptif, puisqu'il avait été. Il n'a jamais vraiment connu son père. Il a fait une enquête, il a envoyé un détective. Il a été reconnu par M. Truffaut qui lui a donc donné son nom. Donc il y a ça aussi. Il a été mauvais garçon. Ça se voit dans les 400 coups. Mmh. Et il y a toutes ces histoires avec toutes les femmes qu'il a rencontrées, puisque notre cher Antoine Douanel est un homme à femme. Hein. Donc voilà. Et en 1986, Daniel Cohen-Bendit, n'est-ce pas, contacte Claude Jade pour faire les suites des aventures d'Antoine Douanel avec Jean-Pierre Léo. Mais le projet, hélas, avortera.
Ouf.
Voilà, c'est ça. Oui, ça leur a donné une petite touche verte.
Oui, mais puisque tu en parles, puisque tu fais l'amalgame entre les deux, Mr. Godard et Mr. Truffaut, donc, puisque c'est cette même année, là, en 1979, que son scénario, donc À bout de souffle, hein, le scénario qu'a écrit François Truffaut, est adapté par donc, Jean-Luc Godard,
un
cinéaste dont il est très proche, avant que des divergences ne subviennent entre
eux. Oui, mais ça, c'est souvent, parce que je pense que, en fait, ça a été beaucoup reproché, justement, donc, comme ce que je viens de dire, c'est que François Truffaut se soit coulé dans le moule, mais il avait comme Claude Chabrol, besoin d'un cadre. Et en fait, lui, son cadre, il était bien posé. Et ensuite, il pouvait jouer avec les personnages. Lui, ce qu'il préférait, c'est jouer avec les personnages. Il n'y avait pas de cadre. Par contre, Jean-Luc Godard, lui, voulait être un révolutionnaire. Et il s'est beaucoup emporté, notamment dans des festivals comme celui de Cannes ou autres, où on l'a vu effectivement lancer des invectifs au public apparemment débile.
D'accord. C'est vrai que des fois, il est débile, le public.
Ah oui, mais bon.
Tu voulais nous parler un peu d'À bout de souffle ou tu es vraiment trop à bout de souffle? Non. D'accord. Bon, bah, ça, c'est réglé. Donc, lancé donc, par ses succès, François Truffaut signe dès l'année suivante, donc en
60.
Non, 1980. Non, c'est pas vrai. Son deuxième film, donc, tiré
sur le pianiste, effectivement. Donc, avec Charles Aznavour, Nicole Berger, Michel
Comment
Mercier.
T'as dit Charles Aznavour.
Charles Aznavour. Oh là là, comme il est trop méchant avec moi. Donc, c'est l'histoire d'un timide pianiste de jazz qui se souvient de la tragédie qui a provoqué la mort de sa femme alors qu'il était un brillant artiste de concert. Il est poursuivi par des tueurs qui s'en prennent à son frère et doit encore se défendre, tandis qu'une jeune femme tente de l'arracher de son passé. Donc, effectivement, c'est l'adaptation du roman de Goudis, effectivement aussi reconnu pour la...
C'est un polar.
Voilà, c'est ça. La prestation chaloupée et savoureuse de Bobby Lapointe qui chantera deux chansons, Framboise et... Marcel. Et puis j'ai appris que Vincent Gallo allait faire un remake. Par contre, ça va s'appeler Don't Shoot the Piano Player. Donc c'est le titre inversé, ne tirez pas sur le pianiste. Et donc le tournage aurait lieu entre New York et Los Angeles. Voilà.
Qui c'est qui est prévu pour le... Donc comme tu disais, c'est un polar, hein, puisque d'ailleurs c'est la première immersion du cinéaste dans le film de genre.
Oui.
Complété donc par la suite par l'exploration d'autres genres comme la science fiction, hein, avec Fahrenheit 451.
En fait, Fahrenheit 451, évidemment, c'est le roman de Ray Bradbury. C'est dans une société dystopique. Qu'est-ce que c'est que la société dystopique, évidemment? C'est l'inverse d'une société utopique. Donc, évidemment, où les livres sont un danger. Guy Moncaige, donc, qui est joué par Oscar Werner, doit reconstruire des livres pour ensuite les brûler. Et là, évidemment, il a rencontre avec Clarisse qui va évidemment le bouleverser. Alors, ce qu'il faut savoir, que Fahrenheit 451, effectivement, c'est une température et qu'elle représente 232,7 degrés, qui est la température de la combustion d'un livre.
Et après, donc, il s'intéresse aussi au fantastique avec la chambre verte.
Oui, la chambre verte. Effectivement, c'est à l'époque, après la Première Guerre mondiale, hein, 14-18. Donc, un homme s'enferme dans le souvenir de sa femme disparue, lui consacrant une pièce de sa maison, puis une chapelle qu'il voue à tous les morts. Alors, ce qui est très marrant, c'est-à-dire que, effectivement, dans le film d'avant, pour lui, les livres étaient des objets interdits. Et là, par contre, ça va être carrément l'inverse. Donc, dans la chambre verte. Et effectivement, beaucoup de gens ont dit que c'était... quelque part, le film le plus autobiographique de Jean-Luc Godard. Enfin, celui qui l'a représenté.
De Jean-Luc Godard.
Oh putain. Décidément de François Truffaut. Je sens que je m'éclate. Je ne comprends pas.
Oui. Ou encore, donc, la fresque historique L'histoire d'Adèle H.
Jouée par notre chère, très chère Isabelle Adjanay.
Oui.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un jour en 1863, une jeune Française débarque à Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'est Adèle, la seconde fille de Victor Hugo, qui ne cesse de poursuivre le lieutenant anglais Pinson, dont elle est éperdument amoureuse. Lui ne l'aime pas, et cela ne décourage pas Adèle, elle en perdra la raison. Alors ce film est d'abord un défi, raconter une histoire d'amour à un seul personnage, évidemment. Truffaut réussit parfaitement à centrer son film sur le visage d'Adèle, donc Isabelle, pour y faire ressentir le poids de toutes ses absences. Le père, Victor Hugo, alors l'homme le plus célèbre du monde, la sœur noyée, Léopoldine, pour qui, évidemment, Victor Hugo fera un superbe poème, l'amant fuyant. Dans ce personnage dont le désir ne fait que grandir à chaque fois que son objet se dérobe et dont l'échec se relève malgré tout créateur, son journal. Adjani trouve l'un de ses plus grands rôles. Et d'ailleurs, ça l'a suivi beaucoup, puisqu'effectivement, on l'a toujours traité Isabelle de folle, puisque ensuite elle fera Camille Claudel, ensuite elle fera La Reine Margot, L'été meurtrier... Évidemment, la journée de la jupe, où elle joue aussi un rôle un petit peu de fofolle. Donc effectivement, ça va la suivre, hein, quand même. Je ne suis pas folle, vous savez.
Donc c'est également la première adaptation donc, littéraire qu'il réalise, hein, ce qui sera par la suite le cas de la plupart de ses films. Il propose également donc, des œuvres originales, signant outre l'introspective que saga Doinel, hein, La Nuit américaine, une comédie qui relate les péripéties rencontrées par une équipe de tournage et son réalisateur.
Donc voilà, donc évidemment au studio de la Victorine à Nice, le cinéaste français Ferrand, qui est joué par François Truffaut, lui-même tourne un film américain et de multiples intrigues amoureuses viennent influencer le tournage, en particulier autour de l'acteur principal Alphonse. La mort accidentelle de celui-ci, qui dans le film joue le rôle de son père, Alexandre, ajoute la tristesse et la confusion. Mais le tournage continuera. Si fonder l'intrigue d'un film sur un tournage n'est pas nouveau, Truffaut donne à ce principe tout son ampleur. C'est un véritable documentaire romancé sur le sujet, posant la question qui hante le cinéma de Truffaut. Le cinéma est-il supérieur à la vie? Et d'ailleurs, ce film lui vaudra l'Oscar du meilleur film étranger en 1973. Quelle bonne année!
Oui, ou encore, comme tu disais tout à l'heure, le dernier métro, l'histoire d'une troupe de théâtre qui essaie de monter une pièce durant l'occupation et dans laquelle le cinéaste glisse des souvenirs d'enfance.
Oui, alors évidemment, c'est le
film phare. Je dirais.
Le film phare. Alors, moi, je dirais que c'est le film commercial
de Truffaut,
hein, surtout. Hein, puisque,
qu'il a césarisé.
Oui, parce que meilleur film, meilleur réalisateur, donc François Truffaut, meilleur acteur, Gérard Depardieu, et meilleure actrice, Catherine Deneuve. Donc, metteur en scène juif allemand s'est exilé à Paris afin de fuir le nazisme. Il dirige le grand théâtre Montmartre, mais en 1942, sous l'occupation allemande, donc contraint à nouveau de chercher refuge, il choisit de se cacher dans les sous-sols du théâtre. Ainsi, il peut confier à sa femme, la comédienne Marion Steiner, la tâche de montrer la prochaine pièce. Celle-ci pourra justifier le style de la mise en scène en indiquant à l'occupant que son mari avait laissé des notes de travail avant de prendre la fuite. Surveillé par les Allemands, comme par les collaborateurs qui souhaiteraient s'approprier ce théâtre, Marion cherche à tenir ses engagements envers son mari. Lucas Steiner écoute les répétitions, l'aide à chaque soir à préparer celle du lendemain. Mais l'un des acteurs, Bernard Granger, le frère d'Hermione, arrive de plus en plus tard et où il doit quitter le théâtre avant la fin des répétitions. Marion craint pour le spectacle, puis elle apprend que Granger est également résistant. Elle se met à avoir peur, évidemment. Là, on tombe évidemment dans ce que adorait François Truffaut, c'est le trio amoureux, puisque là, effectivement, il y aura cette histoire d'amour, en fait, effectivement, entre le mari et la femme, et puis, évidemment, avec Grange. Oui, on sait que Truffaut a écrit le rôle de Marion Steiner spécialement pour Catherine Deneuve, avec qui il voulait réaliser un film que le public aimerait. Sa première tentative, La sirène du Mississippi, oui, s'est soldée par un échec au box-office. Ça a été un peu aussi le problème de notre cher François, entre le public et lui.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, c'était en 69, La sirène, non ?
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc, la décennie 1970 marque l'implosion de la nouvelle vague, hein, démarquée des cinéastes comme Jean-Luc Godard et Jacques Rivette, animée d'une continuelle recherche esthétique et visuelle. François Truffaut, à l'instar de Claude Chabrol, s'illustre dans des films qui connaissent un écho populaire sans pour autant faire de concessions artistiques. Donc sa carrière oscille dès lors entre échecs commerciaux et succès public. Souvent présent là où on ne l'attend pas, il multiplie les projets qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Il est même acteur d'un rencontre du troisième type sous la direction de
Steven Spielberg, oui, parce que Steven Spielberg avait été vraiment avait apprécié la nouvelle vague, et donc effectivement il voulait que François Truffaut joue dans son film, et que François Truffaut avait du mal à parler anglais, donc il y a une histoire de petit bidouillage pour qu'il puisse quand même effectivement un peu parler dans le film, quoi.
D'accord, comme Mr. Spielberg. Spielberg, alors jeune cinéaste, auréolé bon, du succès planétaire Les Dents de la Mer. Merci. Donc artiste à la renommée publique et critique, le cinéaste jouit également d'une reconnaissance de ses pairs. Oscarisé en 1974 pour La Nuit
américaine.
Merci. Il atteint la consécration en 1980 avec le dernier Métro, qui lui a donné 10 Césars, hein, dont celui du meilleur réalisateur.
Oui, tout à fait. Bah, c'est le grand gagnant du
1980. Voilà. Ouais. Donc François Truffaut a également donc collaboré avec d'autres cinéastes, hein, producteurs de Paris nous appartient, de son ami Jacques Rivette, ou encore de L'enfance nue de Maurice Pialat. Il écrit entre autres les scénarios de La petite voleuse de Claude Miller en 1988.
Oui, enfin, je veux dire, c'est posthume. Hein, puisque...
Oui, et de Belle époque aussi de...
Oui, de Gavin
Millard, voilà, 1995, hein, oui, qui ne pourra donc adapter lui-même et qui seront réalisés après son décès.
Oui, mais voilà, c'est ça, oui, puisqu'il est en train d'écrire un scénario, et il a été victime, hélas,
d'une attaque cérébrale, non ?
D'une attaque cérébrale, oui, qui avait été diagnostiquée, hélas, trop tard.
Donc, cinéaste exceptionnel, donc François Truffaut est également un homme qui aimait les femmes. Donc, très proche de ses actrices, hein, il collabore régulièrement avec les mêmes comédiennes, telles que Jeanne Moreau, Julie Gym.
Oui, tout à fait, oui. Alors, Julie Gym, donc, avec Jeanne Moreau et Oscar Werner, vers 1900 à Paris, l'Allemand Jules et le Français Jim, amis inséparables, rencontrent Catherine, une femme qui a le même sourire qu'une statue qui les a enchantées. Jules l'épouse, la guerre sépare les deux amis, puis Catherine vit un moment avec Jim avant de retourner vers Jules. Au moment où Jim va se marier, Catherine l'invite à une promenade en auto. La voiture fait un plongeon sous les yeux de Jules. Cette relation triangulaire où une femme aime deux hommes liés par une indéfectible amitié dans une totale innocence donne lieu à un film brillant, libre, aérien, rapide comme un tourbillon. Aujourd'hui, si sa noblesse des deux hommes frappe, on retient surtout un portrait de femme unique au cinéma que Jim résume à merveille. Une apparition pour tous, pas une femme pour soi. Tout seul. Alors effectivement, je dirais que de nos jours, ça semblerait anodin, puisque effectivement tous nos films romantiques travaillent un peu sur ce fil-là, effectivement, le trio amoureux, mais à l'époque, et surtout avec ce constat que effectivement ces deux hommes pouvaient aimer cette femme et qu'il n'y avait pas de déchirement.
D'accord, et on retrouvera aussi Mademoiselle Jeanne Moreau dans La mariée était en noir.
Tout à fait. Veuve, le jour de son mariage, notre chère Julie élimine l'un après l'autre les cinq hommes qu'elle pense responsables de la mort de son mari. Autour de Jeanne Moreau, un festival de grands comédiens, puisqu'on a Michel Bouquet, Michael Lonsdale, Jean-Claude Brialy, Charles Denner, Claude Rich, Daniel Boulanger et Alexandra Stewards.
Donc aussi on retrouvera Catherine Deneuve, comme on l'a dit plus tôt, avec La sirène du Mississippi, Le dernier métro. Aussi Nathalie Baye dans La nuit américaine et La chambre verte. Ou encore Fanny Ardant dans La femme d'à côté et Vivement dimanche.
Oui, qui sont les derniers films de François Truffaut. Donc Vivement dimanche.
Célèbre émission de Michel Drucker.
Tout à fait, oui, avec Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Calfon. Donc, au cours d'une partie de chasse, Claude Massoulier est assassiné. Chances. Julien Vercel est soupçonné, d'autant que sa femme, Marie-Christine, était la maîtresse de la victime. Lorsque Marie-Christine est tuée à son tour, Julien feint de s'envoler pour l'étranger et se cache dans son agence immobilière. Sa secrétaire, Barbara Baker, mène l'enquête à sa place. Tira-t-elle son patron des griffes de la police ? L'œuvre de Truffaut s'achève sur un film étrange, d'apparence classique, mais perturbant les habitudes du spectateur. À l'inverse de la tradition du film noir, c'est ici une femme qui tient le rôle principal, les hommes étant sans cesse égarés. Et Fanny Ardant quitte son emploi tragique pour la fantaisie et l'humour. Un film où éclate le plaisir du jeu chez le cinéaste comme chez les acteurs. Et il fallait savoir que quand même Fanny Ardant était la dernière compagne de François Truffaut.
Oui, tout à fait, et elle restera d'ailleurs à ses côtés jusqu'à son décès le 21 octobre 84, des suites d'une tumeur cérébrale à seulement 52 ans. Donc aujourd'hui encore, l'œuvre de François Truffaut continue d'influencer des générations de cinéastes, que cela soit à travers des films, mais également par ses écrits, notamment ses célèbres entretiens avec Alfred Hitchcock.
Tout à fait, oui.
Donc plusieurs documentaires lui sont consacrés, dont François Truffaut, Portrait volé en 1992, François Truffaut, une autobiographie, c'est sur la télé, ça, en 2004, ou encore Deux de la vague, en 2007, retraçant son amitié passionnelle et houleuse avec Jean-Luc Godard.
Tout à fait. Donc, comme j'avais dit, effectivement, suite aux 400 coups, évidemment, on avait un petit peu mal considéré le cinéma de Truffaut, alors qu'il n'en est rien, cher auditeur, c'est plutôt le fait d'un malentendu, puisque Mr. Truffaut, le critique, défendait un cinéma résolument classique, Renoir, Guitry, Hitchcock ou Hawks. Ce qu'il fustigeait, ce n'était pas le traditionnel, mais la médiocrité. Les 400 coups se voulaient un film proche à la fois du néo-réalisme et d'un certain film français des années 30, gourmand des silhouettes pittoresque et des dialogues aussi pittoresques, colorés et des digressions dramaturgiques, un cinéma que Renoir a porté à son apogée. Ok, Tiré sur le pianiste tenait un tout autre discours, peu conforme à quelques modèles que ce soit. Un extrême auquel le prudent petit français n'aura plus recours. Désormais, à part l'enfant sauvage, il optera pour des situations, une écriture et des acteurs auxquels le public est habitué. Dans ce joli petit cadre préexistant, il se confrontera d'un subtil mais radical décalage. Et c'est ça la Truffaut's touch, le subtilitisme. Rien de surprenant dans sa façon de faire. Ce cadre solide lui permet de porter toute son attention aux acteurs et à leurs personnages. C'est surtout la peau douce venant peu après l'audacieux Jules et Jim, qui sera victime de cette nouvelle voie, film secret et d'une une réelle sensibilité, sous des dehors de drames bourgeois. Il offre à Françoise d'Orléac, la sœur trop tôt disparu de Catherine Deneuve, l'occasion d'une expression lumineuse et mélancolique. Le point de départ de la saga Antoine Doinel, Jean-Pierre Léo, vraie fausse autobiographie, faux psychodrame, fausse chronique, mais dans ses meilleurs moments, véritable portrait d'une certaine malaise, baiser volé, quelques instants de domicile conjugal. Encore une fois, c'est ça la veine la plus périlleuse de Truffaut, car il est capable de virer vers le cynisme à la Guitry, l'homme qui aimait les femmes, ou vers un fantasme de l'obsessionnel à la Hitchcock, la femme d'à côté. Il sombre parfois dans la facilité, mais pas dénué de charme, l'argent de poche. Cela sera un peu son image de marque. Cependant, sans autre angle, Jules et Jim, qui est en réalité une froide analyse de l'amour et de l'amitié, crée chez Truffaut une veine littéraire. Adaptation, Les deux Anglaises et le continent, et le film à costume, L'histoire d'Adèle H. Le sujet de deux, la passionne. Mais Truffaut adopte une façon de faire, une distance qui perturbe le spectateur. Là aussi, il ne sait pas toujours maintenir la corde raide. Les deux Anglaises, un film froid, et Adèle, un film exsangue. Truffaut réussit parfaitement l'enfant sauvage grâce à une photographie superbe. La chambre verte raconte en des termes troublants une véritable processus de vampirisation où les livres auraient un rôle pétrifiant à l'opposé de ce que je disais, de ce que entendait Fahrenheit 451. Enfin, Tiré sur le pianiste révèle chez François Truffaut des tendances bouffonnes qu'il allait parfois épancher chez Doinel, puis dans l'harmonie quasi magique qui font de La Nuit américaine, Oscar, et de Dernier Métro, César, des œuvres fragiles qu'un rien pourtant pourrait briser et qui pourtant tiennent le parcours. Tiré sur le pianiste accuse aussi chez Truffaut un intérêt indiscutable pour les intrigues policières, transport parfait pour ses personnages obsessionnels. La mariée en noir utilise une intrigue de William Irish comme tremplin pour mieux apprivoiser une poésie à la Cocteau. Et comme le poète, il apparaît protagoniste dans l'un de ses derniers films et dans la raconte évidemment du troisième type de Steven Spielberg en 1977. L'œuvre de Mr. T, bon connaisseur familier du cinéma hollywoodien, son dialogue avec le sieur Hitchcock reste un livre de base, a séduit la critique américaine. Peut-être grâce à cette French Touch, François Truffaut, d'où sa mère qui l'a marqué la nouvelle vague, et ses quelques apôtres, Doyon, Takela, Téchiné, et une psychologie sentimentale aussi, qui doivent apparaître assez exotiques pour correspondre à l'idée qu'on se fait de la France aux States. Est-ce que tu comprends ?
Oui, d'accord.
Oui, alors, effectivement, donc on a parlé quand même de ces films, évidemment.
Oui, parce qu'il en a scénarisé plusieurs aussi.
Oui, tout à fait, oui. Bah, c'était, en fait, je pense que c'était aussi un grand scénariste, hein, puisqu'il a quand même scénarisé Une grosse tête de Claude de Guivray, en 61, Matari, l'agent H21 dans Jean-Louis Richard, donc À bout de souffle, comme tu avais dit.
Oui.
Enfin, le À bout de souffle Made in USA de Jim McBride. Évidemment, La petite voleuse de Claude Miller et La belle époque de Kirby. Donc, mais je sais qu'il avait aussi, parce qu'il est quand même dialoguiste, scénariste, acteur, producteur, quand même pas n'importe quoi. Mm. Moi, je voulais aussi parler, puisque finalement, on a fait quand même pas mal de ses films. Il y a quand même aussi des films un petit peu, je dirais pas moindres, mais qui sont quand même importants, puisqu'on a quand même La peau douce, hein, qu'il ne faut pas confondre avec La pédale douce, hein, pourtant avec Fanny Ardant. Dit en passant, donc avec Françoise d'Orléac, évidemment, dont j'ai parlé. Donc évidemment, c'est l'histoire classique. Donc, directeur d'une petite revue littéraire, Pierre Lachenet, marié à Franca, donne une conférence sur Balzac, que François Truffaut adorait, hein. Il tombe amoureux d'une hôtesse de l'air, Nicole, qui devient sa maîtresse. Ils vivent mal les difficultés de la dissimulation, mais lorsque Pierre veut épouser Nicole, celle-ci refuse. Franca, qui a découvert sa liaison, rejoint Pierre au restaurant, un fusil de chasse à la main. Donc c'est l'un des films les plus personnels de Truffaut, en même temps que l'un des moins séduisants. Son style sec, très découpé, répond à l'angoisse et à la nervosité du personnage central. Truffaut renouvelle le triangle classique du boulevard français en faisant de Pierre un être écartelé entre les personnages sociaux, pesant que les autres voient en lui, et l'être gay, léger, vivant qu'il croit pouvoir devenir auprès de sa maîtresse. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis évidemment, pour le, quand même le grand classique, enfin je veux dire pas le grand classique, mais quand même celui, c'était L'homme qui aimait les femmes. Ce film qui a donné quand même à Charles Denner l'un de ses plus grands rôles quand même. Donc Bertrand vient de mourir, ses funérailles sont suivies par un nombre impressionnant de femmes, toutes celles qui l'ont aimé. Évidemment, comme on avait dit, sur un ton un petit peu cynique à la Guitry, puisque Guitry aimait beaucoup ses intrigues un petit peu de trio quatuor, et effectivement avec ce cynisme. Comme on disait, je suis contre les femmes, tout contre. Il y avait les deux anglaises aussi, puisque c'est quand même pas les deux anglaises et le continent, ce qui est quand même pas un film très connu hein, de notre cher François, avec Jean-Pierre Léo, notre fameux Antoine de Hanel. Paris, au début du XXe siècle, Claude rencontre une jeune anglaise, Anne, qui l'invite au pays de Galles, Wales, où elle fait tout pour qu'il tombe amoureuse de sa sœur Muriel, mais celle-ci refuse le mariage. À Paris, Anne a une brève liaison avec Claude, ce qui fait fuir Muriel. Claude en fait un roman, puis après la mort d'Anne, passe une nuit avec Muriel, celle-ci se marie, tandis que Claude vieillit seul. Voilà. Donc effectivement, là, on se retrouve effectivement dans l'histoire de la passion, hein, quand même. Et il y a un autre film aussi comme ça. Ça me fait rappeler, voilà, Une belle fille comme moi. Donc voilà, c'est l'amour d'un sociologue, André Dussolier, pour une criminelle, Bernadette Lafont. Elle le fait accuser du crime de son compagnon et il finit en prison. Voilà, c'est ça. C'est ce côté aussi de ce personnage.
C'est en 1971.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce côté de ce personnage, comme les deux anglaises, où effectivement, il y a une histoire de passion et que finalement, curieusement, c'est toujours un peu les hommes qui en pâtissent. Puisque voilà, il y a aussi ça dans l'amour en fuite. Voilà.
Tu as des bégaiements.
Oui, je sais.
C'est bon, ben alors, même si on peut dire qu'il s'est octroyé quelques détours aux États-Unisme.
Oui, tout à fait.
Puisqu'il avait réalisé Fahrenheit et, avec Mr. Spielberg et puis avec ses entretiens avec Hitchcock.
Hitchcock oui, tout à fait.
Donc le réalisateur a quand même privilégié la France, hein, sa riche filmographie, hein, 25 films en moins de 30 ans, avec laquelle d'ailleurs il a joué quelques rôles. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. C'est aussi un peu le côté de Hitchcock, puisque évidemment Hitchcock apparaissait souvent dans ses films, mais il était avant tout, et ça on le reconnaît, surtout une silhouette.
Oui, donc il a même été souvent amoureux de ses propres actrices. Hein.
Oui, ça me rappelle les quelques-uns, oui.
Donc on peut dire que l'œuvre de François Truffaut, riche et fondatrice, reste l'une des plus grandes références du 7e art français.
Ben, moi, je dirais que c'est aussi l'œuvre fondateur, puisqu'on avait évidemment Claude Chabrol.
Non, l'œuvre fondatrice, monsieur.
Fondatrice. Donc l'œuvre fondatrice, pardon, et effectivement, de la Nouvelle Vague, puisqu'on avait effectivement Claude Chabrol, dont on avait déjà fait une émission, et Jean-Luc Godard, dont on fera peut-être une émission, qui sait, wouh, soyons fun. Donc voilà, donc je pense que c'est vrai qu'il apparaît quand même, comme je dirais, fondateur, dans ce que nous, on appellera la Nouvelle Vague, mais je pense qu'effectivement, il est arrivé à une époque à point nommé, c'est qu'effectivement, on avait cet ancien cinéma classique et
conformisme,
et dont tous ces réalisateurs qui faisaient aussi partie de la rédaction donc des Cahiers du cinéma ont tenté, évidemment, en évitant cet écueil d'être faisant partie des écoles de cinéma, donc là où on apprend à, évidemment, à être bien cadré, c'est qu'à le dire. Donc eux, ils ont appris sur le tas avec leur amour du cinéma, un petit peu comme ATC finalement, voilà, à faire des films sur une société qui allait changer. Et je pense que ça aussi, ça a apporté aux États-Unis puisqu'ils sont arrivés un peu plus tard. Et voilà, puisque beaucoup d'acteurs comme Martin Scorsese et autres se sont un peu inspirés de la Nouvelle Vague, et évidemment avec aussi leur américanisme, puisqu'ils
oui,
n'étaient pas européens. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi toute la Nouvelle Vague néo-réalisme du cinéma italien qui a été aussi, je pense, inspiré. Bon, ils se sont inspirés les uns les autres. Comme le romantisme était venu d'Allemagne, et ben voilà, la Nouvelle Vague, il se fraîche. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est effectivement, ça a été marrant parce que c'était un petit troublion du cinéma français à une époque qui s'est un petit peu perdu dans le moule de son cinéma, puisque lui, ça lui permettait, peut-être il a eu quand même plusieurs échecs au niveau du box-office, puisqu'on est heureusement, Inch'Allah, en France, donc ça avait moins de répercussions qu'aux États-Unis, mais c'est vrai que ça, peut-être ça lui a fait du mal, et qu'il s'est conforté évidemment dans un moule qui peut-être lui a été dommageable pour la suite de sa carrière, quoi. Alors que Jean-Luc Godard, lui, par contre, a été vraiment, je dirais, un peu plus révolutionnaire dans l'âme.
Voilà, c'était la parole
la sainte parole, alléluia.
Mr. Gwen.
Voilà. Non, mais c'est vrai que moi je dirais que c'est vrai que c'est pas un réalisateur que je connais effectivement.
T'aimes
beaucoup.
Pas les films en noir et blanc?
Non, c'est pas ça. Encore que. Mais non, c'est non. Mais
tu
c'est...
n'as pas été éduqué.
Non, j'ai pas. Bah, je suis pas. J'ai pas grandi dans cet amour-là de ce cinéma de ce genre. Alors effectivement, pour moi, c'est difficile. Je dirais que c'est un peu plan-plan, comme dirait, et là je le répéterai des mille et des mille de fois, où effectivement où les films français sont souvent ennuyeux, on dirait pas Mademoiselle Chambon, mais tout comme, c'est vrai que c'est difficile. C'est un cinéma, je dirais pas hyper compliqué, on n'est pas dans du Terrence Malick quand même, mais c'est vrai que c'est subtil, et puis je pense que aussi c'est le cinéma d'une époque.
Tu n'as pas regardé les cycles Pagnol et tout ça ?
Si, j'adorais les cycles et donc Amio. Mais oui, mais bien sûr. Mais bon, ça, c'est l'humour qui fait passer aussi des fois la pilule.
Ah, si ça vient trop cérébral en noir et blanc, tu n'en peux plus là.
Bah, disons que c'est compliqué, c'est long dans le cheminement.
Oh, les 400 coups, ça se regarde bien. Quand
ah
même.
Non, mais je dis pas que ça ne se regarde pas. Je dis c'est moi. Ce qui n'est pas le propos de toute une génération, c'est pas le propos de la population française
vous
entière.
Avez bien vu, Gwen vient d'avouer son ego modeste.
Oui, tout à fait. Non, mais voilà, je pense que c'est une brique représentative du cinéma français qui a permis sans doute et quelque part aussi de briguer sa place au plan mondial, qui n'est quand même pas rien, puisque je dois rappeler quand même qu'il y a peu de pays qui peuvent se permettre de rivaliser avec les États-Unis à haut niveau, hein, puisqu'on a parlé de l'Inde, effectivement, elle représente, mais c'est quand même un film, des films qui quand même sont quand même plus joués en Inde et dans quelques pays anglophones, avec surtout une communauté indienne qui vient voir ses propres films. Mais c'est vrai que c'est grâce à des réalisateurs comme ça qu'on peut se permettre de tutoyer le cinéma américain et anglais, quoi, puisque les Anglais ont au moins l'avantage de la langue.
C'est donc, tout ce qu'ils ont.
Oui, on dirait peut-être jusque là, mais tout comme. Non, mais moi, je pense que c'est effectivement, il faut voir ce genre d'auteur, effectivement.
Ce genre de film. Même.
Ce genre de film, effectivement, puisque c'est quand même un amoureux du cinéma qui fait du cinéma. Et c'est vrai que moi, je dirais que par rapport à des auteurs qui sont sortis de l'école et qui, effectivement, lèchent le public dans le sens du poil. Oui, tout à fait. Ah. Et dans le sens du poil, et effectivement, en faisant des films que le public forcément aimera, et moi je trouve que c'est pas mal un petit peu perturbé.
Surtout les producteurs.
Oui, ça, mais ça c'est, je veux dire, c'est intrinsèque, hein. Il y a un producteur qui fait un film juste pour le film, ça n'existe pas. Lui, il cherche avant tout
à vendre et
à se faire des thunes sur le dos du public, ce qui fait qu'effectivement on a toujours ce gros problème des dites et redites dans le milieu du cinéma. Donc je dis vive Jean-Luc, vive Claude et vive Mr. François.
Et bravo.
Voilà, et bravo à la Nouvelle Vague et à Gina de René.
Merci pour ces maillots de bain. Donc nous allons au rocher, Mister.
Oui, tout à fait.
Planter nos piolets.
Oui, tout à fait. Le pestélisme avant tout. Alors donc, aujourd'hui, du moins cette semaine, nous aurons trois films. Donc deux films américains et un film franco-islandais, hein, on peut le dire.
Queen of Monterey.
Oui, Queen of Monterey de Solveig Hanspach.
Hanspach. Ça se prononce comme ça.
Ah, d'accord.
Donc Florence Loiret.
Caille. Moi j'ai Loiret Caille.
Oui, non, mais j'ai pas fini. Bah, je te laisse dire le nom des artistes.
Donc avec Florence Loiret Caille, Dida Jan Dottir et Ulfur Agisson.
Eric Caruso, oui. Samir Gresmi, Alexandre Steiger.
Oui.
Donc c'est le début de l'été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil. Elle doit se remettre à son travail de réalisatrice, mais aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé. Elle y parviendrait peut-être plus facilement si elle cessait de se trimballer avec l'urne funéraire et savait quoi faire des cendres. Donc l'arrivée inopinée à son domicile d'un couple d'Islandais.
La mère et un fils.
D'accord. Du notari et d'un voisin toujours désiré, mais jamais complètement conquis, vont lui donner le pouvoir de reconquérir sa vie. Donc on va dire que c'est un film qui fait du bien où l'on sourit, où l'on rit, et qui devait être remboursé par la sécu parce qu'il nous rappelle pourquoi on aime la vie, même quand elle est chienne.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Solveig Hanspach, donc comme tu disais...
Hanspach.
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 voilà, qui est donc expatriée islandaise, déclare sa flamme à la France.
Sa femme ?
Sa flamme.
Ah.
À la France. C'est un hommage au film italien, entre rire et larmes. Et je dois rappeler que le budget était si serré que les visions d'Agathe, qui devaient être filmées à l'origine, en fait, l'équipe a dû le faire en séquence animée, ce qui rajoute un petit côté surréaliste au film.
Il y a quelques films islandais, parce que dernièrement, j'ai vu Reykjavik, Rotterdam, qui est pas mal aussi.
Oui, oui, ben voilà. Ben, je pense que c'est aussi pas mal les films du Scandinave qui sont en train de bien passer. On a eu, évidemment, les films danois. Et puis, je pense qu'il y a aussi... puisqu'on
Millennium.
Avait Millennium, donc les films suédois. Et puis, il y a aussi donc Le Monde Fantastique d'Oz en 2D et...
En 3D.
En 3D. De Sam Raimi, notre cher Monsieur Spider-Man.
Avec James Franco.
Oui, donc le bouffon vert de Spider-Man.
Czar Braff.
Voilà.
Mila Kunis.
Rachel Weisz.
Michelle Williams.
Abigail Spencer.
Qu'on avait vu Michelle Williams dans My Week with Marvel.
Voilà, tout à fait. Alors, le synopsis, donc, en fait, c'est l'histoire du prestidigitateur Oscar Diggs, qui est réputé pour ses méthodes plus que douteuses, évidemment, toujours. Hein. Ça me rappelle un petit peu l'imaginarium du docteur Parnassus, qui est propulsé de son Texas gris et austère pour échouer dans un pays où, tout en couleur. Le fantastique monde d'Oz. Il est accueilli comme le magicien libérateur de l'oppression qui pèse sur Oz. Moi, ça me rappelle quand même ces grands films. Hein, je veux dire,
ça c'est pensé aussi à. Comment s'appelle ce truc ? Jack Carter, là, non pas,
oui.
Pas Jack, c'est. Comment oui. C'est le prénom ? Non. John Carter.
John Carter. Ouais. Oui, mais c'est ce... non, il y a encore que John Carter, il a le bon rôle quand même. Moi, c'est toujours ce côté-là où c'est un petit mec qui bidouille. Il va arriver en tant que libérateur. Là, il va réussir les premières fois. Et d'un coup, la méchante sorcière, elle va dire « Mais vous savez qui c'est le type qui vous aide ? C'est un mauvais !» Et là, évidemment, tout le monde dit « Oh, mais non, tu nous as trahis !» Et là, pouf, le dernier combat, il va dire « Non, je suis un homme bien !» Et hop, il va libérer le pays. Un grand classique du cinéma américain, quoi.
On est déjà blasé. Donc, il incite vraiment les gens à aller voir ce film. Donc, Sam Raimi honore cette commande Disney, il faut le dire aussi, tout en y injectant
voilà.
sa patte d'auteur. Donc, ce film se termine dans un final explosif qui ne laisse pas l'ombre d'un doute sur les intentions de Raimi. Raimi ?
Raimi.
Ah, Raimi sans famille.
Oui, c'est ça.
Pervertir l'esprit Disney de l'intérieur dans un feu de joie païen tout en le perpétuant. Donc c'est une sublime première partie aussi, il faut le dire, hein, en noir et blanc, donc il rend hommage aux Freaks de Todd Browning.
Oui, et puis évidemment aussi au magicien d'Oz, évidemment avec Judy Garland quand même, hein, c'est qui reste quand même le grand classique, effectivement, puisque là, Dorothy va être changée avec notre cher Oscar. Moi, je dirais qu'effectivement, les effets spéciaux, puisque effectivement, celui de Judy Garland, c'était un petit peu chiche à l'époque. Et je pense que là, il y a évidemment tout un monde que Sam Raimi a dû créer et qu'effectivement, là, ça vaut vraiment le coup de voir. Mais je veux dire, c'est comme ce qu'on avait fait sur les comédies romantiques. Hein. On le sait pertinemment, le mec et la nana vont être ensemble. Le tout est de savoir comment. Donc effectivement, là, quand on va voir ce film, c'est surtout les personnages, c'est surtout les personnages secondaires, puisqu'il y aura toujours, je pense que on s'en doute, un comique. Évidemment, une belle, parce qu'il faudra quand même une histoire d'amour. Parce que la fin, on la connaît, hein, c'est du Disney, ça peut mal finir, voilà quoi. Il faut le savoir.
C'est dingue que tu sois blasé.
Mais je suis pas
blasé. Toi, t'aimes pas Disney. Je sais pas ce qui t'a fait, à mon avis, mais t'as un souci. Quoi.
Mais non. Mais c'est ce côté trop. C'est
que tu fasses une thérapie.
Non, mais c'est... moi, le problème
fais
avec Disney.
Suivre.
Non, le problème avec Disney, c'est que c'est infantilisant et c'est surtout.
Et alors, allez où ta part de rêve quand même pour les enfants.
Et le dernier, évidemment, La Porte du Paradis de Michael Cimino avec Chris Christopherson, Christopher Walken, Isabelle Huppert,
John Lust et Brad. Dwyf.
Oui,
de 1980.
Et Sam Waterston.
C'est une restauration. Hein.
Ouais, voilà. Et Sam Waterston, qu'on voit désormais dans New York, Cour de justice. Et c'était aussi les premiers pas d'Emma Thompson et de William Dafoe, qui n'est pas mis au générique. Et il y a aussi notre cher Terry O'Quinn, le fameux Locke de la série Lost. Celui qui n'a pas de cheveux.
Donc, deux anciens élèves d'Harvard.
Oui, d'Harvard.
James Averill et Billy Irvine se retrouvent donc en 1890 dans le Wyoming. Averill donc est devenu le shérif fédéral, tandis que Billy, rongé par l'alcool, est membre d'une association de gros éleveurs en lutte contre les petits immigrants venus pour la plupart d'Europe centrale. Donc, Averill s'oppose à l'intervention de l'association sur le district et tente de convaincre son ami. Et là,
Elle l'a.
Oui, c'est bien France. En plus, une Française, oui. De quitter le pays pour plus de sécurité. Donc, c'est un anti-western grandiose, hein, dénonçant les méfaits d'une civilisation construite sur les cadavres de ses premiers émigrants.
Mmh. Tout à fait, oui. Alors, ce qu'il faut savoir que quand même, ce film a été à l'époque un gouffre financier qui a causé la chute de United Artists, qui a été racheté ensuite par la Metro-Goldwyn-Mayer.
Qui a été racheté par le Crédit Lyonnais.
Voilà, c'est ça, oui. Avec des petits sous. Mais évidemment, ils ont quand même...
Il fait partie des films maudits. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, ils ont quand même coupé plus d'une heure, parce qu'il faut le savoir, chers auditeurs et auditrices, ce film dure quand même 3h36. Hein. Comme disait Hugo, c'est la version intégrale et restaurée que vous verrez.
Il est grandiose. Hein.
Voilà. Moi, je pense qu'il est grandiose. Alors, il faut savoir c'est que le
dimanche...
Non,
il est grandiose.
Oui, je sais.
C'est pas, faut pas penser, il est. Oui. Ben, répète après moi, il est.
Il est, fantastique. Très bien. Voilà. Donc le dimanche 28 avril, à partir de 17h30, il y aura une soirée en présence de Bob Skippon, qui est professeur de cinéma américain à Sciences Po et spécialiste de la civilisation américaine. Donc il y aura aussi des grignoteries de Loku.
Des grignoteries, ça existe,
oui,
ce mot?
C'est marqué, la grignoterie, tu grignotismes, c'est-à-dire que tu manges, mais que tu n'as pas faim, après tu as encore faim, quoi. À partir de 3€, et donc voilà, et il y aura des boissons offertes. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup de voir cela, parce qu'effectivement, c'est toute la création, évidemment, de la civilisation américaine.
Mais il a plusieurs séances, hein, c'est pas qu'une seule séance. Là.
Oui, non, mais
c'était la spéciale.
Ça, c'est la spéciale, donc le dimanche aussi.
Merci Gwen. Donc Gwen, la semaine prochaine, de quoi vas-tu parler ?
Alors, de quoi je vais parler ? De quoi nous allons parler ? Eh bien, je vais faire un petit retour aux States.
Encore ?
Oui, parce que j'aime le States.
Oui, ça on sait. Hein.
Oui, voilà. Et en fait, on va parler de tout ce cinéma, comment ça s'appelle ?
Débile que tu aimes ?
Non, pas du tout. Ou quoique, ça va être là. Non. De la Blaxploitation.
La quoi ?
La Blaxploitation, c'est-à-dire tous ces films des années 70 que la communauté afro-américaine a fait pour elle, c'est-à-dire les Shaft, et Marvin
Starsky Hutch avec Huggy et les bons tuyaux.
Oui, non, pas vraiment. Non, puisque ça se caractérisait surtout par la présence d'Afro-Américains et surtout pour les Afro-Américains, pas des Afro-Américains.
Tu veux dire que je peux parler de Mississippi Burning ?
Non, ça n'a rien à voir ça. Non, c'est-à-dire que c'est la communauté noire...
Je peux parler dans la chaleur de la nuit ? In the heat of the night.
Voilà, bien, on pourra en parler de ça. Oui, effectivement, puisqu'on peut évidemment parler sur toute la lutte.
Le Kukuskar, monsieur.
Oui,
aussi,
voilà,
hein.
C'est ça. Mais, non, mais c'est-à-dire...
Oui, mais je vois ce que tu dis. Déjà, Shaft, il en a au moins 3 ou 4.
Voilà, c'est ça. Puisque c'est évidemment dans la suite de Black is Beautiful.
Avec la musique Motown.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de puisqu'il y a James Brown et tout. Il y avait la fameuse Pam Grier, qu'on verra dans Jackie Brown, puisque ça a beaucoup inspiré aussi Quentin Tarantino.
D'accord.
Donc voilà, c'est évidemment toute
cette
vague.
Ça s'appelle la Black?
Blaxploitation, c'est B-L-A-X et station, puisque c'est les deux mots black et exploitation film.
D'accord.
Donc le film fait surtout pour une certaine catégorie de spectateurs.
D'accord.
Donc voilà, et donc effectivement, avec évidemment tout le passé, évidemment, comment ça s'appelle, des peuples noirs aux États-Unis et de la lutte évidemment de Martin Luther King et de Malcolm X. Voilà. Mais c'est vrai que là, on tombe vraiment dans des films qui sont explicitement faits pour les Afro-Américains et par les Afro-Américains. Donc c'est-à-dire que.
On peut pas se tromper. De toute façon.
Bah, c'est-à-dire que tous les acteurs sont noirs, quoi. Comme dans certains films, tous les acteurs sont blancs, quoi. Voilà.
Enfoncer les portes ouvertes.
Non, je parle pour mon passif sud-africain. Donc, eh bien, chers auditeurs et chers auditrices...
Assassin, t'as besoin d'expier tes péchés.
Oui, tout à fait. Donc, chers auditeurs et chers auditrices...
Appelez le 09 52 368 531 ou le contact personnel de Gwen, donc contact@rdwa.fr.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez laisser vos messages personnels sur la page Facebook aussi d'Arrête ton cinéma.
Voilà.
S'en fout, on fait plein de pubs.
Voilà, c'est ça. Effectivement, et puis j'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé avec notre cher Mr. T.
Pourquoi donc ? Ça veut dire que c'était film ennuyant ?
Non, c'est pas des films ennuyants. Si c'est notre ennuyé, explication.
Voilà, tout de suite, c'est mon choix. Donc voilà, c'est ennuyant.
Ah non, non, moi j'ai
si
pas
t'as dit ça. Tu l'as
non,
dit.
Non, non,
tu l'as dit.
Non,
tu l'as
dit. Non, non, moi ce que je dis, c'est que.
T'as dit que c'était ennuyant. Regardez.
Non, non,
c'est ta mot de conclusion. Merci.
Non,
au revoir.
Non.
Je raccroche.
Ok. Bon, bah, allez, ciao. Non, non, c'était pas ennuyant.
Il a dit que c'était ennuyant.
Non, j'ai dit notre façon de faire. Non, non, parce que je me permettrais pas de critiquer un réalisateur.
Oui, devant le micro, mais derrière, ça y va, hein.
Ça, c'est pas vrai.
Si, si, si.
Ah non. Ah, je suis déçu. Tu es méchant, en fait.
Non, réaliste.
Bon, eh bien, chers auditeurs, donc, nous vous disons à la semaine prochaine,
oui,
à la même heure, moins une heure.
Ce que ça veut dire, ça.
Eh bien, c'est-à-dire que quand tu dis à la même heure...
Le changement d'heure.
Mais non, quand tu dis à la même heure, c'est
17h.
Ils savent
que c'est à 17h qu'il faut écouter.
Mais non, c'est à 16h, donc, la même heure, moins une heure.
Voilà.
Eh bien, ciao, ciao, et à la settimana prossima.
Il aime bien avoir le mot de la fin. C'est son émission. Au revoir.
Au revoir. Go ahead. Be quiet, Jay.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.